Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 1er janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Campagne sur plusieurs fronts contre l'Iran avec un seul objectif, changement de régime. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, pour le leader de la révolution islamique d'Iran, la relance du front de la résistance était grande réussite du lieutenant général Rassem Soleimani. L'Iran est opposé à la présence de pays étrangers dans la région, déclaration du chef de la diplomatie iranienne à l'adresse de son homologue azerbaïdjanais. Et puis, une explosion près de l'aéroport militaire de Kaboul fait plusieurs victimes en Afghanistan. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique iranienne a décrit la relance du front de la résistance comme une grande réussite du lieutenant général Rassem Soleimani. Le leader de la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, s'exprimait à la veille du triste anniversaire de la mort en martyr du très haut général iranien Rassem Soleimani, a déclaré que le héros de la lutte anti-Daesh avait protégé, équipé et préparé la résistance contre le régime israélien et contre l'influence des États-Unis et d'autres pays arrogants. Il a qualifié la défaite de Daesh de réalisation majeure du général Soleimani. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que le général Soleimani avait soutenu la résistance en Irak et en Syrie en utilisant leurs potentiels nationaux. Le général Soleimani, commandant de la force haute du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI d'Iran, et ses compagnons irakiens, dont Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant en second des unités de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi irakienne, sont morts en martyr dans une frappe de drone américain le 3 janvier 2020. La frappe menée près de l'aéroport international de Bagdad a été autorisée par le président américain de l'époque Donald Trump. Les deux commandants antiterroristes réputés étaient extrêmement respectés et admirés dans toute la région pour leur rôle clé dans la lutte contre le groupe terroriste Daesh dans la région, en particulier en Irak et en Syrie. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran est opposé à la présence de pays étrangers dans la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a échangé lors d'un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov, sur les questions bilatérales et régionales. Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué la volonté de l'Iran de renforcer les liens de transport et de transit avec la République d'Azerbaïdjan. Amir Abdollahian a réaffirmé l'opposition de l'Iran à la présence de pays étrangers dans la région. Il a souligné que les pays de la région sont capables de résoudre correctement les problèmes de la région en adoptant des approches positives. La formation de groupes de travail pour coordonner les activités médiatiques et l'examen de la pollution de la rivière frontalière Aras ont été parmi les autres questions proposées par le ministre iranien des Affaires étrangères lors de cet entretien téléphonique. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a pour sa part souligné l'importance de la coopération avec la République islamique d'Iran. Selon le directeur du comité spécial pour le suivi de l'affaire de l'assassinat du général Soleimani, le dossier de l'ex-commandant de la force haute du CGRI dans sa phase finale de l'acte d'accusation. Téhéran poursuit sérieusement une procédure judiciaire pour servir la justice dans l'affaire de l'assassinat en 2020 du commandant antiterroriste iranien, le lieutenant général Rossem Soleimani, par les États-Unis. Abbas Ali Khatrodaï, qui dirige un comité spécial spécialement formé pour suivre l'affaire de l'assassinat du général Soleimani, a pris part à une réunion sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en Asie de l'Ouest. Il a déclaré que le pouvoir judiciaire iranien et le ministère des Affaires étrangères poursuivaient cette affaire avec précision. L'armée iranienne a entamé la première phase opérationnelle de ses exercices annuels près de la ville portuaire méridionale de Jask. Le troisième jour des exercices, les unités de l'armée ont testé avec succès le système antimissile portable Radir ainsi que les systèmes de défense aérienne Mersad et Talash. Tous sont de fabrication iranienne. Les forces navales ont également testé une gamme de torpilles de différentes classes de sous-marins. L'une des torpilles, baptisée Mi'ad, a été lancée pour la première fois depuis les sous-marins lourds de la classe Tarek de la marine. Les armes comprennent la torpille de classe Valfajr, qui est un intercepteur tactique grâce à sa grande vitesse et sa puissante ogive. L'actualité régionale avec l'Afghanistan, le ministère afghan de l'Intérieur annonce une explosion à l'extérieur de l'aéroport militaire de la capitale Kaboul. Le porte-parole du ministère afghan affirme que l'explosion a fait des victimes civiles, mais il n'en a pas précisé le nombre exact. La cause de l'explosion n'a pas été encore élucidée et une enquête est en cours. L'aéroport militaire est proche du bâtiment du ministère de l'Intérieur des talibans. Enfin, le Yémen, le ministère yéménite de la Santé condamne le bombardement de civils dans la région frontalière, le qualifiant de crime de guerre. Les forces saoudiennes ont attaqué des civils dans les zones frontalières du gouvernorat de Saada, tuant un certain nombre de personnes, dont des immigrants africains. L'ONG des droits de l'homme, AIN, a appelé à la formation d'un comité international pour enquêter sur les crimes commis par la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite contre le peuple innocent du Yémen. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Campagne sur plusieurs fronts contre l'Iran avec un seul objectif, changement de régime. Il y a une campagne permanente sur les réseaux sociaux contre la République islamique d'Iran, une campagne qui s'est intensifiée après la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre. Cette fois, la campagne s'est concentrée sur les droits des femmes et la justice. Le récit principal, ici, est qu'une révolution féministe est en cours dans les rues de l'Iran. Ce récit est construit autour de l'idée d'un soulèvement pacifique et général contre le régime islamique, un régime qui tente d'arrêter la vague historique qui pointe vers sa dissolution politique. L'idée d'un mouvement pacifique est centrale dans cet exercice discursif. Et c'est pourquoi on ne peut pas voir ou lire dans les médias occidentaux mainstream des cas de jeunes volontaires de la mobilisation populaire appelé Basij, tués par des émeutiers armés ou des menaces de mort contre ceux considérés comme des collaborateurs du régime. Les rapports sur ces attaques de foule se seraient heurtés à leur récit d'une révolution soi-disant pacifique. La violence, après tout, c'est le langage de la République islamique, n'est-ce pas ? Avance-t-il ? C'est du moins ce que les libéraux en Iran, comme un certain Sadr Ziba Kalam, voudraient faire croire aux gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Ils nous disent aussi que la démocratie, la tolérance et le dialogue sont des caractéristiques intrinsèques de leur vision politique. Mais on ne veut pas parler, encore une fois, du fantasme libéral d'une vision politique non violente et non raciale. Le libéralisme aspire à être un langage politique universel qui ne laisse aucune place aux possibilités alternatives. Il existe d'autres soi-disant groupes d'opposition qu'il convient de mentionner ici. Commençons par les pro-Pahlavi, l'ex-régime despotique. Ils sont animés par un sentiment de nostalgie, un attachement sentimental à une époque révolue. Mais qu'en est-il de leur vision politique ? Se demandent les experts. Les Pahlavi despotiques faisaient partie de ce que le professeur Salman Saïd appelle le kémalisme. Le kémalisme, pour lui, ce n'est pas seulement la modernisation, mais l'occidentalisation. Il est utilisé pour décrire la série de transformations au cours desquelles les gouvernements dirigés par ceux qui se disent musulmans ont mené des réformes qui ont sapé la possibilité d'une agence politique musulmane. La famille kémaliste ne comprend pas seulement les Pahlavi, Bourguiba en Tunisie, Atatürk en Turquie et Saoud en Arabie Saoudite sont tous des exemples de cette famille politique. L'une des principales caractéristiques du kémalisme est l'idée que l'islam ne peut être rompu au statut d'identité politique. Les Pahlavi en Iran ont retiré l'influence de l'islam politique, des institutions publiques. Ils ont préféré la langue pré-islamique, non pas à cause de ses valeurs historiques, mais parce qu'ils pensaient que le recours à un passé persan effacerait la possibilité d'une agence musulmane. Comme la révolution islamique nous l'a montré, ils avaient totalement tort. L'agence musulmane a été le moteur de la révolution islamique, la même révolution qui a mis le dernier clou dans le cercueil kémaliste, du moins en Iran. Les Pahlavi sont partis, mais l'idéologie kémaliste est toujours présente et exprime toujours sa haine contre la République islamique. L'organisation des Moudjahidine Ikhlal, OMK, est essentiellement une organisation sectaire, vilipendée par les Iraniens, même ceux qui ne soutiennent pas la politique représentée, disons, par la République islamique, parce qu'ils se sont rangés du côté de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran dans les années 1980. Au moins 15 000 Iraniens ont été tués par le groupe terroriste depuis l'établissement de la République islamique en 1979. Et de nos jours, l'OMK terroriste est soutenu par des figures comme John Bolton, l'ancien conseiller belliciste américain à la sécurité nationale. Le groupe entretient également de bonnes relations avec le régime sioniste et son agence d'espionnage Mossad. Les autorités iraniennes affirment que le groupe terroriste était à l'origine de certains des sabotages et des assassinats des forces de sécurité dans le pays ces derniers mois. L'OMK fonctionne comme une sorte de groupe mandataire pour les États-Unis et leurs alliés. Allons décortiquer le sujet. Si nous définissons le pouvoir comme la capacité d'action autonome, il est facile de voir que l'OMK n'a pas de pouvoir propre. Le groupe terroriste compte sur les États-Unis et le régime israélien pour sa survie, tant sur le plan politique que financier. On ne parle pas ici seulement du soutien matériel et économique que le groupe reçoit de l'Occident. Il reçoit des milliers de dollars en paiement de son rôle de mandataire au nom de l'Occident et de l'Arabie saoudite. On parle aussi ici des éléments discursifs que le Krupp tente d'articuler. Ces éléments discursifs ne sont même pas originaux. Le Krupp limite simplement certains concepts occidentaux et essaie de les assaisonner d'une saveur persane afin de rendre leur message plus acceptable. En d'autres termes, le discours de l'OMK n'est pas une sorte de message nativiste et iranien. Sa grammaire occidentale est déguisée, du moins le pense-t-il, en une sorte de langue nationaliste ou en langue meurtrière déguisée en discours pro-droits de l'homme.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. En effet, les exercices militaires iraniens baptisés Zulfaror 1401 ont commencé depuis plus de 24 heures dans la région du sud de la République islamique d'Iran. Des unités blindées de l'infanterie et des missiles avancés ont été déployés lors de ce manœuvre militaire. Quels sont les messages que veut faire entendre la République islamique d'Iran à travers ces manœuvres? Quels en seront les résultats? Quelles en seront les conséquences, mais également les réactions de la partie occidentale qui est bien sûr visée à travers ces manœuvres? C'est un message destiné à tous ceux qui cherchent la déstabilisation de la République islamique d'Iran. Nous allons répondre à toutes ces questions, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos deux invités, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le porte-parole de l'exercice hybride de l'armée iranienne, baptisé Zulfaqar 1401, a fait part du début de cet exercice conjoint avec le code secret Ozahra, que la paix soit sur elle. Le général de brigade Amir Reza Sheikh, porte-parole de l'exercice conjoint, a expliqué « L'exercice a commencé jeudi soir 29 décembre avec le code secret au Zahra dans la région du sud-est, la côte de Makran, entre l'est du détroit d'Ormuz, près du port de Gewadar et de la mer d'Oman, jusqu'à une orbite de 10 degrés dans le nord de l'océan Indien. » L'infanterie, les unités blindées mécanisées, les systèmes de défense, les navires de mer et de surface qui sont présents dans la région générale de l'exercice depuis quelques jours ont commencé jeudi soir la phase principale et opérationnelle de la manœuvre. Ces entraînements sont lancés conformément aux exercices annuels et calendriers et conformément aux principes du renforcement de la formation et de la préparation de l'armée au combat ainsi qu'à la mise en œuvre de certains plans opérationnels et d'information pour améliorer la sécurité de la région, a déclaré le général de brigade Cher. Le responsable de l'exercice conjoint Zulfaqar 1401 de l'armée a par ailleurs affirmé que dans le prolongement de la phase principale de l'exercice Zulfaqar 1401, les unités navales de l'armée ont mené un solide exercice de défense côtière la première nuit de la phase tactique de l'exercice. Les forces de l'armée ont d'ailleurs utilisé des armes et des équipements optimisés lors de l'exercice militaire et ils ont mis en œuvre de nouvelles tactiques et scénarios de défense dans le cadre d'une manœuvre nocturne. Durant cette opération qui s'est poursuivie jusqu'au lever du soleil, les Rangers de la marine ont réalisé une opération de défense côtière en utilisant les missiles Dehlaviye et Tau, de même que le lance-roquettes Missar, a indiqué le porte-parole de l'exercice hybride Zulfaqar 1401. Et d'ajouter, malgré l'obscurité de la nuit, les casques verts de l'armée ont pu tirer des obus d'artillerie légère et lourde sur des cibles prédéterminées avec le soutien d'unités de défense côtière et empêcher ainsi les unités adverses d'avancer en peu de temps.
De retour sur le plateau, je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Bernard Cornu, politologue, qui est avec nous depuis Vaucluse par Skype. Également Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous par téléphone depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour, Monsieur Cornu. Merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat. Dans un premier temps, Monsieur Cornu, quel regard portez-vous sur ces manœuvres militaires ? À votre avis, quel message veut faire entendre l'Iran à travers ce manœuvre militaire baptisé Zulfaron 1401, surtout à la partie occidentale?
Je pense que le message principal, c'est que l'Iran veut montrer que les sanctions imposées par, notamment, principalement par les États-Unis, n'entravent pas ses capacités de développement technologique et notamment la modernisation de son armée, et notamment pour sa défense et pour participer à la défense du Moyen-Orient s'il en était besoin. Le deuxième message, je pense, c'est que l'Iran se tient prêt au cas où il y ait une attaque contre lui sous de mauvais prétextes ou suite à des provocations comme l'a souvent évoqué le gouvernement israélien passé ou comme le fera certainement le nouveau gouvernement israélien.
Merci pour vos explications, Monsieur Cornu. Restez avec nous. Alors, Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Vous suivez de très près les évolutions dans la région moyen-orientale, mais surtout en Iran. Vous, à votre avis, quel est le message que veut faire entendre l'Iran à travers ses manœuvres militaires?
Et ce qui est en cause ici, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, cette nouvelle forme de la guerre que l'Iran a lancée au Liban à partir de 2006 et que la Russie a lancée en Ukraine à partir de 2013 et qui domine aujourd'hui le théâtre africain. Jusque-là, les armées occidentales pratiquaient la guerre de type Clausewitz classique, celle qu'on enseigne dans les académies militaires. C'est-à-dire qu'on commence par une tension politique. Lorsque la politique se termine, on passe à la tension militaire. La guerre hybride iranienne et russe, c'est une guerre multidimensionnelle où ne sont plus séparées les phases de la guerre. Il y a des éléments de la confrontation politique, il y a des éléments militaires et des forces spéciales, il y a des éléments de la guerre évidemment informationnelle, ce que l'OTAN appelle la cyberguerre. Il y a des éléments de la guerre économique. Tout cela même, une nouvelle forme de guerre qui a déstabilisé l'OTAN aujourd'hui. Il y a une véritable obsession dans les observateurs de l'OTAN contre la guerre hybride.
Oui. Et Monsieur Michel, je vous pose la deuxième question à vous-même. En ce qui concerne les dernières évolutions dans la région, il y a des menaces de part et d'autre de la part des États-Unis, de l'axe en fait occidental contre l'Iran, que ce soit des menaces militaires ou menaces économiques, donc des sanctions de part et d'autre. Il y a aussi en Israël ce nouveau cabinet de Benjamin Netanyahou. Est-ce que l'Iran aussi ne voulait pas faire entendre ce message à travers ses manœuvres à l'Occident que ce soit quelles que soient en fait les sanctions, les pressions, l'Iran est prêt à riposter et ne se laissera pas faire en fait.
L'Iran a montré qu'il tenait son rang et en particulier c'est une réponse à Netanyahou puisque le nouveau cabinet Netanyahou a lancé un programme anti-iranien maximal. Qu'est-ce que les Iraniens comme les Russes disent? Vous savez, on dit que l'Iran comme la Russie, ce sont des puissances pauvres. Elles n'ont pas les moyens financiers des États-Unis pour faire la guerre, notamment les 750 milliards annuels de dollars du Pentagone. Néanmoins, ces puissances pauvres, évidemment, avec la guerre hybride, elles sont capables de tenir leur rang face à l'impérialisme occidental, comme l'Iran le démontre au Proche-Orient, comme la Russie le démontre en Ukraine et en Afrique. Il est parfaitement capable de tenir son rang et de rivaliser avec les Occidentaux.
Merci pour vos explications. Monsieur Cornu, vous, à votre avis, est-ce que, étant donné la situation actuelle au Moyen-Orient, mais notamment en Iran, donc les tensions avec l'Occident, la fin des négociations nucléaires, les sanctions de part et d'autre, le nouveau cabinet d'Israël, est-ce que ceci n'est pas en quelque sorte un message de la République islamique d'Iran à ses parties occidentales qu'il est prêt en fait à riposter en cas de menace plus sérieuse?
Oui, c'est tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Iran montre qu'il se tient prêt et qu'il a participé avec d'autres pays au développement technologique moderne, c'est-à-dire l'utilisation de drones, l'utilisation du guidage satellite précis. L'Iran vient de, sans doute d'améliorer ses réseaux de communication à usage militaire. Bien sûr, il y a des tas de composantes technologiques qui sont très, disons, secrètes, qui sont très peu connues, sauf dans les milieux spécialisés, et ce n'est pas mon cas. Mais l'Iran, par sa technologie de drone, par sa technologie de missile, par ses moyens de communication, ses moyens de cybernétique, d'informatique, a montré qu'il savait suivre le chemin des grandes puissances technologiques avancées qui ont des moyens financiers considérables. Encore une fois, d'ailleurs, à cause de la puissance du dollar, les États-Unis permettant de financer leur Pentagone et leur NSA en imprimant du dollar ou en diffusant des bons du Trésor qui ne seront jamais remboursés.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Michel, en ce qui concerne les menaces de part et d'autre des Américains, donc nous avons eu pendant quelques années les négociations nucléaires qui avaient à un moment quand même abouti à des conclusions assez concrètes, mais finalement il n'y a rien de concret en ce moment. Nous avons des menaces militaires de part et d'autre de la part du régime israélien et aussi des États-Unis contre l'Iran, mais aussi via parfois l'Arabie Saoudite qui est notre voisin. Dans tout ceci, à votre avis, Monsieur Michel, quel est l'objectif principal de l'axe occidental à travers toutes ces menaces et toutes ces pressions exercées?
Écoutez, les États-Unis ouvertement préparent la Troisième Guerre mondiale. Lorsque vous lisez les géopoliticiens américains comme George Friedman, c'est visible. Ils prévoient cette Troisième Guerre mondiale entre 2050 et 2070 et ils sont en train de se positionner en position de force puisqu'ils veulent gagner cette guerre mondiale. C'est cela qu'il faut constater. Vous savez qu'en ce qui concerne les négociations sur le nucléaire civil iranien que vous avez pronostiqué dès le premier jour, je suis souvent intervenu sur votre plateau, que vous avez pronostiqué la volonté de l'Occident de ne pas revenir à ces négociations. On y est évidemment, il y a une volonté de confrontation. Les États-Unis désignent actuellement deux adversaires immédiats, la Russie et l'Iran. Il y a un adversaire prioritaire qui est la Chine. C'est la grande erreur des Occidentaux, c'est d'avoir choisi de combattre sur plusieurs fronts. Vous savez que chaque fois qu'un président militaire a voulu mener la guerre mondiale sur plusieurs fronts, il a échoué. C'est le cas de l'Allemagne en 1914-18. C'est le cas de l'Allemagne en 1940-45, évidemment, ce sera le cas des États-Unis lors de la Troisième Guerre mondiale.
Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Luc Michel? Est-ce que les États-Unis sont en quête d'une Troisième Guerre mondiale?
Disons, je ne serais pas si affirmatif. Il y a, comme dans tout pays, aux États-Unis, des tendances diverses sur la stratégie. Sur la propulsion du pays vers différentes tendances. Donc en fait, on n'est pas sûr que c'est ce groupe de néoconservateurs qui ont été très influents dans la politique américaine au temps de Bush père et de Bush fils puissent imposer leur point de vue stratégique et donc de mener à un suréquipement militaire et à des provocations ici et là pour maintenir leur hégémonie dans le monde. Donc je pense qu'il y a aussi quelques hommes politiques un peu plus sages aux États-Unis et qui essayent de, plutôt de, disons, tout en maintenant leur position économique, de ne pas pousser trop à des provocations qui mèneraient à une guerre, et notamment avec une guerre nucléaire avec la Russie ou avec d'autres pays. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la volonté de certaines démocraties au pouvoir d'avancer dans un monde peut-être plus juste, plus équilibré, plus multipolaire. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est la voie de la diplomatie, au moins en Europe, et au moins dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, qui cherchent des solutions, peut-être pas assez fortement, pas assez efficacement, pas assez intensément, pour résoudre les grands problèmes du monde, que sont les conflits, que sont les insuffisances de régionalisation dans les pays qui ont des diversités ethniques et religieuses, comme c'est le cas partout au Moyen-Orient et parfois aussi en Asie, et qui cherchent aussi des solutions globales pour le problème de l'humanité et de la planète, qui est le problème climatique, et le problème du développement, le problème de l'érosion, de la déforestation. Voilà, donc la guerre ne peut qu'ajouter des dégâts à tous ces problèmes. Et donc en Europe, où nous avons subi plusieurs guerres depuis 100 ans, je pense qu'il y a quand même des dirigeants qui essayent d'échapper à cette stratégie destructrice américaine.
Monsieur Michel, que pensez-vous de l'analyse de Monsieur Cornu? Est-ce que vraiment nous pourrions aller vers un monde apaisé, un monde sécurisé, un monde multipolaire et régler les crises par la diplomatie? Il est vrai que la meilleure solution est toujours la diplomatie, comme le dit Monsieur Cornu, mais est-ce qu'il est possible et envisageable ceci?
Je ne partage pas du tout cette opinion, évidemment. Vous devez savoir que les guerres, elles ruinent les peuples du monde, sauf les États-Unis. Les États-Unis se sont relancés économiquement avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Même dans une guerre qu'ils ont perdue comme le Vietnam, la bourse de New York pendant ce temps-là est montée de 40%. Donc les États-Unis pensent qu'ils seraient gagnants en cas de Troisième Guerre mondiale. Deuxièmement, ce ne sont pas uniquement les néoconservateurs qui envisagent cette troisième guerre mondiale. Quelqu'un comme John Friedman, qui est le géopoliticien américain principal, l'héritier de Kissinger et de Brzezinski, ce n'est pas un néoconservateur ou un démocrate. C'est quelqu'un, au contraire, qui représente le TikTok du lobby militaro-industriel. Stratfor hier, aujourd'hui, géopolitique dans le futur. C'est quelqu'un qui est proche des milieux démocrates. Il y a une même volonté de déboucher sur une troisième guerre mondiale par les néoconservateurs, par le lobby militaro-industriel, par les républicains, etc. Quand on assiste à la politique américaine actuellement, on constate par exemple que l'administration Biden, malgré ses beaux discours électoraux contre Donald Trump, elle marche dans les pas géopolitiques de Donald Trump. Derrière Donald Trump, il y avait tous les grands lobbies américains, lobbies israéliens, lobbies taïwaniens, lobbies industriels, lobbies des hydrocarbures, etc. C'est évidemment la même chose aujourd'hui. Il y a une volonté du système américain de déboucher sur cette guerre. Que disent les géopoliticiens américains? Ils sont parfaitement conscients de la perte d'influence américaine. Ils savent que les Américains vont perdre leur place de superpuissance mondiale. Et ils pensent que la Troisième Guerre mondiale, c'est l'occasion de faire un super bon coup géopolitique et de garder la maîtrise des affaires. Le livre de George Friedman, il s'appelle « The Next 100 Years, les 100 prochaines années ». Il est sous-titré « Pour que le 21e siècle soit un nouveau siècle américain ». C'est exactement le slogan des néoconservateurs américains. Et je le rappelle, donc Friedman n'est pas du tout un néoconservateur. C'est quelqu'un qui est partisan de ce qu'on appelle l'école réaliste américaine, celle de Kissinger et de Brzezinski.
Et M. Cornu, En ce qui concerne ce que vient de dire M. Michel, mais ce sujet que vous avez évoqué, la diplomatie, il y a eu des négociations entre l'Iran et la partie européenne pendant des années. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a eu un moment des résultats concrets, mais en ce moment, c'est arrivé au point mort. Est-ce qu'avec ce suivisme dans le domaine politique que suit en fait la partie européenne, l'Union européenne, les pays européens, des États-Unis, donc cette dépendance aux politiques et aux dictats américaines, on pourrait vraiment espérer à ce qu'un jour les pays européens aient une politique indépendante de celle que pratiquent les États-Unis dans divers affaires.
En tout cas, oui, il faut l'espérer. Je suis d'accord avec M. Luc Michel sur son analyse de certaines forces très puissantes aux États-Unis. Mais il faut rappeler cette différence fondamentale. Les États-Unis n'ont pas subi de pertes importantes sur leur territoire. Ils n'ont pas connu la guerre chez eux. Certes, ils ont eu des dizaines de milliers de morts au Vietnam. Ils ont eu des milliers de morts en Irak et en Afghanistan pour des guerres qu'ils ont provoquées, qu'ils ont voulu, qu'ils ont entretenues, qui leur ont coûté très cher, mais qui ont coûté très cher au reste du monde parce qu'encore une fois, le dollar est irresponsable. Les bons du Trésor ne seront jamais remboursés. Alors qu'en Europe, dans toute l'Europe, nous avons connu plusieurs guerres, la Première Guerre mondiale, qui était européenne au début, la Deuxième Guerre, qui a amené beaucoup de destruction. Il y a aussi la guerre en Yougoslavie, aussi provoquée pour des intentions aussi souvent américaines de perturbation du monde post-soviétique, et allez, de cette époque-là. Donc, mais encore une fois, les dirigeants européens, nos cadres, notre jeunesse, savent le coût de la guerre en termes de destruction, de retard au développement. Et je pense qu'il y a encore des dirigeants en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, qui souhaitent éviter la guerre, qui souhaitent œuvrer par la diplomatie pour résoudre les conflits importants qu'il y a encore sur notre continent et ailleurs dans le monde. Donc en fait, il faut espérer que la diplomatie et cette expérience profonde, douloureuse des guerres en Europe puissent encourager nos dirigeants à œuvrer pour la diplomatie plus que par la guerre.
Monsieur Michel, à votre avis, est-ce que, comme le dit Monsieur Cornu, ces expériences douloureuses des maintes guerres dans lesquelles les pays européens ont été en quelque sorte empêtrés, leur servira-t-il de leçon pour qu'ils entreprennent une politique assez indépendante de celle pratiquée par les États-Unis dans divers domaines, hein, à savoir les affaires moyen-orientales, européennes, occidentales, etc.
Il n'y a rien à entendre des dirigeants atlantistes. Les dirigeants atlantistes, ce sont des prostituées du système américain. L'Empire américain, il marche sur un système féodal. Il y a un empire central qui est l'Empire américain. Il y a des vassaux. L'OTAN, ce n'est pas le bouclier de l'Europe. C'est le harnais de l'Europe qui sert à assujettir celui-ci. À partir de ce moment, les dirigeants atlantistes ont été amenés au pouvoir à partir du 6 juin 1944 en Europe. Ils sont là pour servir la politique américaine. Le grand géopoliticien autrichien, le général von Lausen, aujourd'hui disparu, au moment des guerres de Yougoslavie, avait fait une analyse. Il avait dit que la participation des dirigeants atlantistes européens aux guerres américaines en Afghanistan et en Yougoslavie s'était menée au mépris des intérêts fondamentaux de l'Europe. Il y a en Europe un double phénomène. Il y a d'une part une opposition entre les dirigeants atlantistes et ce qu'on appelle les élites neutres, c'est-à-dire les diplomates, les militaires, les industriels qui ne veulent pas de la guerre avec la Russie. Il y a d'autre part un rejet des masses européennes par notamment les coûts de la guerre américaine en Europe. Ce qu'il faut espérer, c'est que les élites neutres feront leur jonction avec la colère des masses européennes. Mais il n'y a rien à attendre des dirigeants européens. Entre parenthèses, particulièrement la France, évidemment, depuis Sarkozy, Hollande et Macron, elle a totalement tourné le dos à la politique coaliste. C'est ce qu'on appelait jadis l'axe Paris-Moscou, évidemment, est aujourd'hui obsolète à 2000%.
Merci infiniment. Alors, on était en ligne avec Bernard Cornu, politologue, Luc Michel, géopoliticien. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne année, un petit peu en avance, mais quand même, je vous souhaite une très, très bonne année. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions et nos informations sur notre site à l'adresse french.presstv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir et à très bientôt.
Au revoir et bonne année.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'émission Afrique Économie, une émission dans laquelle nous révisons les plus importantes évolutions économiques qui se sont passées durant la semaine dernière en Afrique. En vous souhaitant une très bonne année 2023, je vous prie de bien vouloir nous suivre dans cette émission. Restez avec nous. En 2021, Genel Energy avait signé un accord d'amodiation avec le véhicule d'investissement OSC basé à Taïwan dans le cadre de l'exploitation du bloc SL10B13 situé au Somaliland. En Somalie, le gouvernement a rejeté mercredi 28 décembre les droits pétroliers de Genel Energy au Somaliland, une zone du nord de l'État et dans laquelle la compagnie américaine opère le bloc SL10B13 avec 51% de parts. Le gouvernement fédéral de Somalie rejette catégoriquement la prétention de Genel Energy à posséder des droits pétroliers dans les régions du nord de la Somalie, indique le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans un communiqué publié sur son site. La nouvelle est en lien avec le contexte géopolitique tendu de la région de la Corne de l'Afrique. En effet, Mogadiscio revendique son droit à exercer son autorité sur le Somaliland, qui a fait sécession en 1991. Les autorités somaliennes considèrent donc comme une violation de la souveraineté du pays et en conséquence illégale de ce fait tout accord conclu avec les dirigeants du territoire. Une position confortée par l'absence de reconnaissance internationale du Somaliland sur fond d'échec des efforts de réunification des deux régions. Le gouvernement somalien a indiqué qu'il exercera toutes les voies légales dans le cadre de son mandat constitutionnel de protection de l'intégrité territoriale de la Somalie. Une mesure qui pourrait exaspérer un peu plus les tensions dans la région de la Corne de l'Afrique, déjà significativement affectée par plusieurs décennies de crise politique et humanitaire. À Madagascar, le clou de girofle est le second produit d'exportation agricole derrière la vanille. Si la Grande Île est le deuxième producteur de l'épices derrière l'Indonésie, la filière vient de réaliser l'une des performances les plus remarquables de son histoire. En 2022, Madagascar a engrangé 224,7 millions de dollars de recettes grâce à ses expéditions de clous de girofle. C'est ce que rapporte le quotidien local, l'Express de Madagascar, citant les données du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, MICC. L'enveloppe annoncée est quatre fois plus élevée que le résultat de 56 millions de dollars obtenu un an plus tôt et signe un record historique dans la filière. Cette embellie s'explique notamment par une production en os de l'épice qui s'est établie à 40 000 tonnes contre un stock de 25 000 tonnes affiché un an plus tôt. Plus globalement, il faut souligner que la croissance de 60% de la récolte d'une année sur l'autre signe également une performance inédite au sein de l'appareil productif
qui n'avait jamais réussi à dépasser la barre des 30 000 tonnes depuis plus d'un siècle, selon les données de l'Institut national de la statistique. La principale destination des clous de girofle malgache est l'Inde, qui absorbe environ 45% des expéditions en valeur, suivie de Singapour et de l'Indonésie. L'agence malgache de promotion des investissements EDBM estime que chaque année, la grande île fournit entre 30 et 50% de la demande mondiale de l'épice qui a été introduite sur son sol en 1919. En juillet dernier, Nieva a annoncé un projet de construire deux unités modulaires flottantes de liquéfaction de gaz FLNG pour exploiter les réserves du bloc en mer marine 12 et approvisionner le secteur électrique du Congo. Le groupe énergétique italien Eni a conclu jeudi 22 décembre un accord avec la compagnie chinoise d'ingénierie Wison Heavy Industries. Le deal vise la construction d'une installation flottante de liquéfaction de gaz, FLNG, sur le bloc marine 12, un périmètre situé dans les eaux territoriales de la République du Congo à 17 km large des côtes. Une fois achevée, l'infrastructure devrait être en mesure de générer une production de 2,4 millions de tonnes métriques de gaz par an pour des capacités de stockage de plus de 180 000 mètres cubes de gaz naturel liquéfié, GNL, et 45 000 mètres cubes de gaz de pétrole liquéfié, GPL. Selon les parties prenantes, les travaux préliminaires entrant dans le cadre du projet, notamment la commande des matériaux à long délai de livraison, ainsi que la découpe de l'acier des réservoirs cryogéniques ont été lancés. Notons que selon les estimations d'Eni, la production de GNL à partir des réserves gazières du bloc offshore Marine 12 devrait atteindre 4,5 milliards de mètres cubes par an. D'ici 2025, une deuxième unité modulaire en plus du FLNG Tango acquis en août pour une entrée en service annoncée pour 2023 devrait permettre d'atteindre ce résultat. Une grande partie de la population africaine n'a pas accès aux services bancaires et à l'Internet. Les banques et autres fournisseurs de services financiers utilisent l'USSD pour faciliter l'accès à leurs services à cette partie de la population. Les sociétés de télécommunications nigérianes demandent l'autorisation de la Nigerian Communication Commission pour supprimer la fourniture de services de données supplémentaires non structurées USSD aux banques et autres institutions financières. Ces dernières n'ont toujours pas payé les 80 milliards de Nairas qu'elles doivent aux opérateurs télécoms pour services rendus. Selon Benga Adebayo, président de l'Association des opérateurs télécoms agréés du Nigeria, la suppression se fera progressivement une fois que l'initiative aura été approuvée par la NCC. La déconnexion devrait se faire par l'eau, en commençant par les plus gros débiteurs. Cela pourrait se produire autour du premier trimestre 2023, a-t-il précisé. La question de la tarification des services USSD est l'objet de désaccords entre les banques et les opérateurs télécoms depuis 2019. Les opérateurs de télécoms avaient déjà menacé de retirer leurs services USSD aux institutions financières à partir du 15 mars 2021 en raison de la dette cumulée qui s'élevait alors à 42 milliards de Nairas. Toutefois, l'intervention de la Banque centrale du Nigeria et de la NCC a permis de trouver un compromis. En septembre, les derniers opérateurs télécoms ont dû réitérer les menaces devant l'indifférence des banques. Le retrait des services USSD aux banques, s'il est approuvé, devrait considérablement affecter la qualité et la disponibilité des services financiers fournis aux populations nigérianes à tous les niveaux. Cela pourrait également ralentir les ambitions d'économie sans numéraire de la CBN et du gouvernement nigérian dans un contexte de transformation numérique accélérée. En 2021, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives a lancé un programme dans 10 pays, dont le Nigeria, la Zambie, le Ghana, le Liberia et le Sénégal. Pendant 5 ans, ces pays seront outillés pour mieux tracer les bénéficiaires réels de leurs projets extractifs. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives a publié plus tôt ce mois son premier rapport de suivi du programme Opening Extractive. Étalé sur les années 2021-2022, ce document montre comment l'organisation aide 10 pays miniers ou pétroliers, dont 5 en Afrique, à améliorer la transparence concernant les propriétaires effectifs des projets miniers, pétroliers et gaziers et à assurer une meilleure collecte des revenus extractifs. Sur le continent, la Zambie, le Nigeria, le Ghana, le Liberia et le Sénégal sont concernés par ce programme depuis l'année dernière. En un peu plus d'un an, ce programme a permis de renverser les capacités des régulateurs miniers et pétroliers au Ghana, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs des demandeurs de licences. Le deuxième producteur africain d'or a également obtenu un soutien technique pour fluidifier les formulaires physiques permettant aux entreprises de faire leur déclaration au registre général des entreprises. Le département dépendant du ministère ghanéen de la justice a par ailleurs bénéficié de 2 ateliers de renforcement des capacités de son personnel pour une collecte de données de meilleure qualité. Au Sénégal, le programme Opening Extractive a axé son travail sur l'harmonisation du cadre législatif et la consolidation d'un registre central unique pour les bénéficiaires effectifs. Dans le pays, un décret datant de 2020 définit un bénéficiaire effectif comme tout individu détenant une participation de 2% ou plus dans une société extractive. L'ITIE permettra par ailleurs au Sénégal de devenir un hub régional pour les pays d'Afrique francophone, permettant des échanges sur les meilleures pratiques en matière de cadre juridique et de meilleure utilisation des données.